Donc, je vous rappelle un petit peu le programme. Là, on va commencer par une petite explication sur nos droits sociaux. Je pense qu'on en a tous un peu besoin. Puis, sur un débat qui est intitulé « Vers une continuité des revenus pour les artistes auteuristes ». Mais d'abord, je vais donner la parole à Pierre Garçon du SNAP CGT pour nous parler de notre partenaire sans qui cette journée n'aurait pas pu se faire.
Alors bonjour, Pierre Garçon, je suis sculpteur, auteur et alors membre du SNAP, membre du conseil d'administration de l'ASF. Si cette journée d'aujourd'hui se tient, c'est parce qu'on a reçu des financements de la part d'audience. Pourquoi on accepte des financements de la part d'audience? Parce que audience, c'est une institution qui prend en charge notamment les congés spectacle pour les intermittents du spectacle, qui prend en charge des mutuelles, des complémentaires. Et notre secteur des arts visuels n'en a pas. Donc l'intérêt du partenariat du SNAP avec audience pour nous, c'est d'une part de récupérer de l'argent pour financer ce type d'opération, mais c'est aussi, à terme et à longue et à moyenne échéance, aussi la possibilité d'offrir aux artistes auteurs une complémentaire santé pour celles et ceux qui pensent en avoir besoin. Voilà, j'en ai fini sur cette présentation. Le but, c'est pas de discuter de ça non plus, mais que vous le sachiez. Et la dernière annonce que je vous donne là, c'est que pour entrer à l'ASF, pour faire partie de l'ASF, avant le prochain conseil d'administration qui se tiendra la semaine prochaine, il faut remplir dès aujourd'hui vos bordereaux afin de bénéficier d'une partie de vos droits 2023 si vous n'en avez toujours pas perçu et pour profiter de vos droits d'auteur de 2024. Merci de votre attention.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais vous... Là, il y a écrit le statut social des artistes auteurs et autrices. Mais est-ce que les artistes auteurs et autrices ont vraiment un statut social? On peut se poser la question, c'est-à-dire que, bon, fiscalement, c'est des travailleurs indépendants, et socialement, ils sont rattachés au régime, je vous avais plutôt porté sur le régime, au régime général de sécurité sociale des salariés, ce qui a permis de... nous apporter, puisque je suis moi-même plasticienne, de nous apporter un certain nombre de droits, même si, pour l'instant, il en manque encore certains. Voilà. Donc, quelques dates. Au commencement, comme dans les Shadocks, il n'y avait absolument rien. En matière de protection sociale, les artistes-auteurs, que ce soit des arts visuels et plasticiens, mais aussi les auteurs de l'écrit, ils étaient... Enfin, je sais pas. Ils n'avaient rien ou ils avaient des assurances volontaires, éventuellement, voilà. Et c'est donc sous le gouvernement Malraux, en 1964, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, qu'il y a eu un régime de sécurité sociale... des peintres, graveurs et sculpteurs. Donc c'était un petit peu limité et c'était une petite structure, voilà, on payait des petites cotisations et on n'avait pas grand-chose en face, finalement. Et puis donc, en 1977, se sont jointes les autres branches des artistes-auteurs, donc là c'était les arts graphiques et plastiques. Et donc il y a eu quatre branches qui sont venues s'adjoindre avec la création de l'AGESA, donc les photographes, les auteurs de l'écrit, écrivains et illustrateurs, les auteurs compositeurs de musique, et la cinquième branche, je ne sais plus. Voilà, donc pourquoi eux, ils ont eu plein de branches, alors que nous, les arts graphiques et plastiques, on n'en avait qu'une? C'est que ça ne s'est pas construit de la même façon. Pour le côté ex-maison des artistes, si ça rappelle des souvenirs à quelqu'un, ça s'est construit des artistes vers les diffuseurs, le législateur, enfin, des artistes vers les droits. Alors que quand s'est créée la GSA pour les autres branches, c'est venu des diffuseurs, le syndicat national de l'édition phonographique. Donc c'était les structures d'édition qui ont constitué cette association, puisque c'était deux entités à caractère associatif. Donc là, l'acquisition des droits pour nos professions s'est faite petit à petit par strates successives. Donc en 1985, le droit aux indemnités journalières, aux congés maternité. En 1993, donc, il y a eu une normalisation du fonctionnement du régime par rapport aux normes de sécurité sociale, parce qu'avant, c'était une structure un petit peu boiteuse. Et c'était le dernier régime de sécurité sociale dont le conseil d'administration était élu par les cotisants. Ce, jusqu'en... Donc, 2000, le dernier conseil s'est arrêté en 2014... et le SNAP-CGT, dont je fais partie, a donc présidé ce conseil de 2001 à 2014, et moi-même de 2011 à 2014. Ce qui n'était pas une position très très confortable, je dois vous le dire. Donc après 2014, que se passe-t-il? Eh bien, à nouveau, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il y a une vacance du conseil d'administration jusqu'à cette année. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient dans leur coin. Il n'y avait plus aucun contrôle des organisations professionnelles d'auteurs sur la gestion de leur régime de sécurité sociale. On arrivait beaucoup de mal à avoir les informations. Et donc ça, il n'y a pas eu de renouvellement du conseil d'administration en 2014 par une espèce de maladresse pas du tout intentionnelle du ministère de la Culture. Voilà, donc on a eu quelques années qui se sont passées, et donc en 2019, on a eu le transfert du recouvrement des cotisations à l'URSSAF du Limousin, et là, tout s'est mis à exploser dans tous les sens, parce que on a donc fait ce transfert sans trop de préparation, ni du côté des artistes-auteurs, ni du côté des personnels de l'URSSAF, qui n'étaient pas du tout formés aux particularités de notre régime social. Et de plus, les évolutions législatives ont encore compliqué les choses, puisque dans l'ancien temps, pas si ancien, il y avait toujours un... Entre les cotisations étaient déterminées par rapport à l'année antérieure, et donc il y avait un décalage dans le temps. Mais là, il y a eu une espèce de fiction pour s'aligner sur les professions salariées, une fiction de cotisation en temps réel qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Donc, en 2020, l'abaissement du seuil de... puisqu'il y avait encore une affiliation à cette époque-là, de 900 à 600 fois, l'abaissement du seuil d'ouverture de l'ensemble des droits, donc les droits auxquels nous avons droits sont le remboursement maladie, mais aussi l'assurance vieillesse, naturellement, la retraite, mais aussi les indemnités journalières en cas de maladie et les congés maternité. Donc avant, il fallait avoir... Pardon, c'est mieux comme ça. Moi, ça me fait un peu d'écho, mais bon. Avant, il fallait gagner 900 fois le SMIC horaire pendant l'année. Donc, 900 fois, on va dire 10 000. On va dire que le SMIC à 10 balles, c'était il y a deux ans. Mais enfin, ça a un peu augmenté depuis, mais enfin, pas follement. Et donc maintenant, à partir du moment où on cotise sur 600 fois... on a l'ouverture complète des droits sociaux. Enfin, complète, tout est relatif, mais ça sera le slide suivant. Donc, en 2023, il y a eu donc, la fusion de l'ex-AGSA et de l'ex-Maison des Artistes en une entité toujours associative qui s'appelle donc la Sécurité sociale des artistes-auteurs. Et il y a eu un conseil d'administration, mais cette fois-ci qui n'est plus élu par les artistes-auteurs eux-mêmes, mais nommé par les ministères, et sa composition a été déterminée donc par la puissance publique et pas par les auteurs, ce qui pose quelques petits problèmes de représentativité. Donc, les organismes, donc l'URSSAF du Limousin, pourquoi du Limousin ? Parce qu'il fallait bien la mettre quelque part. Parce que voilà, ça permettait de maintenir de l'emploi dans le Limousin. Mais en fait, l'URSSAF du Limousin, elle est à Paris, c'est-à-dire à Montreuil, dans la banlieue parisienne. Enfin, elle est en partie dans la banlieue parisienne à Montreuil, et en partie, non pas à Limoges, mais à Tulle, qui est la préfecture de la Corrèze. Et donc, c'est le personnel de l'URSSAF de Tulle qui s'occupe de nous. Qui s'occupe pas du mieux qu'il peut, mais il ne peut pas toujours très bien. Il y a de multiples dysfonctionnements sur le site. On ne peut jamais avoir les documents qu'on veut. On poste des messages et on n'a pas de réponse. Et puis, il y a aussi la modulation des cotisations et des gens qui reçoivent des cotisations qui ne devraient pas avoir à payer. Enfin bon, il y a tout un tas de bugs divers et variés. Donc les deux organismes, c'est d'une part l'URSSAF du Limousin, notre interlocuteur en ce qui concerne les choses qu'on a à payer ou éventuellement à se faire rembourser, et donc la Sécurité sociale des artistes auteurs, cette toute nouvelle association construite sur les ruines d'un régime qui auparavant ne marchait pas si mal que ça. Ces missions, donc son conseil d'administration est donc nommé, ces missions sont l'affiliation des artistes auteurs qui auparavant était prononcée par les caisses primaires, mais on ne sait pas trop comment elle fait pour le faire, enfin, on ne sait pas si elle a les moyens de le faire. Le recensement, pareil, on ne sait absolument pas dans quelle mesure, puisque maintenant, quand on veut entrer dans le régime des artistes-auteurs, on doit s'inscrire auprès de l'URSSAF, CFE, enfin, le Centre de formalité des entreprises, donc c'est là qu'on va faire son immatriculation, qui ensuite sera transmise et à la Sécurité sociale des artistes-auteurs, le mot 2S2A, j'aime pas trop, ouais, donc je ne l'emploierai pas. Le Centre de formalité des entreprises transmet donc l'info à la 2S2A, j'avais dit que je ne le dirais pas, je le dis, et à l'URSSAF du Limousin, qui donc va venir vous réclamer des cotisations. Et des fois, vous réclamez des cotisations dès la première année, sur un forfait, alors que vous n'avez pas gagné d'argent. Voilà, c'est une des nouveautés aussi de ce régime, c'est qu'il faut payer, on ne paye pas en sortant, on paye en entrant. Qu'est-ce qu'elle fait encore ? Le contrôle de conformité du champ d'application. Donc, pour être artiste-auteur, il faut avoir une activité qui relève du champ d'application des artistes-auteurs. Et là, normalement, enfin dans le temps et dans la loi, si elle était appliquée, c'était les commissions professionnelles des différentes branches qui devaient, au cas où il y avait un dossier litigieux, où on avait un doute sur l'activité, c'était les commissions professionnelles qui siégeaient. J'ai moi-même présidé cette commission pendant un certain nombre d'années pour la Maison des artistes. Et qui examinait les dossiers pour voir si vous êtes bien artiste-auteur ou si vous faites complètement autre chose. Eh bien, les commissions professionnelles, la dernière fois qu'elles ont siégé, c'était en septembre 2019, ça commence à faire un peu longtemps, et les nouvelles commissions ne sont toujours pas nommées. Donc, pour ce qui est du contrôle du champ d'application, on ne sait pas qui le fait, on ne sait pas sur quels critères, et en tout cas, c'est hors de la légalité, puisque normalement, c'est aux commissions de l'exercer. Quant à l'information, c'est pas trop. Là, ils ont quand même fait un petit effort. Il y a des fiches pratiques, des vidéos, des trucs. Ah oui, l'action sociale, pardon, excusez-moi. L'action sociale, c'est extrêmement important, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, donc, le champ d'application, vous voyez, hein, c'est marqué là. Ça, c'est la branche des arts graphiques et plastiques. Je suppose qu'à une des lignes de ce qu'il y a écrit sur cette feuille, les uns ou les autres, vous y reconnaîtrez ou pas. parce qu'on n'est jamais exhaustif quand on liste des activités et des professions. Voilà, donc que dire là-dessus ? C'est que quand même on a un petit peu étendu ce champ d'application à des pratiques qui étaient auparavant considérées comme n'en faisant pas partie, genre le design. Voilà, donc là c'est pas marqué d'ailleurs le design, voici œuvre du design. Voilà, la dernière ligne, elle a été rajoutée assez récemment, et donc on a un petit peu étendu le champ des activités permises pour les arts graphiques et plastiques. Donc après ce que je disais, les autres branches, les photographes, dont on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas dans les arts visuels, hein, on peut se poser la question, mais encore une fois c'est une question de construction, c'est-à-dire que la plupart des auteurs des arts visuels sont déclarés fiscalement en bénéfices non commerciaux, alors que les photographes, c'était les photographes qui avaient des livres, des photos éditées, donc qui passaient par le livre, donc c'était l'édition, donc c'est encore une fois, c'est la construction qui se fait par l'éditeur vers les auteurs, et non pas des auteurs vers leur régime social. Donc les photographes, ils ont une branche tout seuls, voilà. Les écrivains illustrateurs du livre, donc du coup, effectivement, quand on est illustrateur, on pouvait aussi bien ressortir d'un côté que de l'autre, selon qu'on fait des livres ou qu'on fait d'autres types d'illustrations. Les auteurs de l'écrit, les compositeurs de musique, les metteurs en scène, et les cinéastes et auteurs-réalisateurs d'œuvres multimédia. Donc voilà pour le champ d'application. Alors les revenus, parce qu'avant, c'était très simple, hors vente d'œuvres et droits d'auteur, point de salut. C'est-à-dire que soit on vendait son œuvre, on faisait une facture, c'était une facture parce que j'ai vendu ma sculpture, soit c'était du droit d'auteur, avec une note d'auteur, et bon, ça posait quand même un certain nombre de problèmes pour des types de revenus qui ne relèvent ni l'un, ni de l'un, ni de l'autre, mais qui font quand même partie intégrante de l'activité d'un artiste-auteur. Donc là vous voyez, il y a tout un tas de choses un petit peu inattendues, suivi ou exécution de son œuvre par l'artiste-auteur, c'est un peu étrange de se dire qu'à une époque, ça pouvait ne pas compter. Ou par exemple, l'activité de jury en vue de l'attribution d'un prix, ça par contre, moi je ne sais pas, quand j'ai siégé dans des jurys, en général, j'étais salariée. Il y a eu un certain nombre de choses qui sont maintenant prises en compte. Donc on a réussi à élargir un petit peu, notamment l'auto-édition, ça c'est important aussi, parce que si on veut faire des tirages de ses propres œuvres, etc., auparavant c'était compliqué parce que c'était considéré comme des multiples, donc c'était plus des œuvres d'auteur à partir du 20e exemplaire ou je ne sais pas combien. Et là maintenant, on a le droit, voilà. Donc on a un peu élargi les droits dans ce domaine-là. Alors, les activités qui ne relèvent pas du régime des artistes-auteurs, c'est donc les productions de séries, les réalisations utilitaires. Alors ça a été aussi des grands débats, parce qu'avant, c'était carrément l'artisanat d'art était totalement exclu du champ. Donc là, maintenant, vous avez vu tout à l'heure dans les activités prises en compte, il y avait les céramiques d'œuvres uniques quand elles portent l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Et cette histoire de réalisation utilitaire, c'est ce qui est venu remplacer l'interdiction aux artisans d'art. C'est-à-dire que là, c'est vraiment les réalisations utilitaires au sens où l'utilité... Alors, c'est toujours pareil. Il y a des cas à la limite, dans le sens où l'utilité va primer sur le caractère original de l'œuvre. que ce soit par le nombre ou par ou que le l'objet va être résumable à sa fonction. Et donc, les prototypes, ça c'est pareil, c'est les travaux exécutés à des fins industrielles. Alors, certaines activités peuvent, sous condition, être agrégées à titre accessoire aux revenus artistiques. C'est donc pas les prestations de conseil ou de direction artistique, ça c'est non. Mais par contre, les genres patines et fausses matières ou les travaux de restauration d'œuvres, par exemple, si vous faites une fresque sur un mur et que vous faites du faux marbre autour de votre fresque, vous avez le droit de facturer le tout. Et les travaux de restauration, c'est pareil, ça peut être très accessoire. Enfin, si accessoirement on restaure, je ne parle pas de sa propre œuvre, mais dans le cadre d'une production artistique plus importante, s'il y a une part de restauration, on peut l'intégrer en tant qu'activité accessoire. Alors, les activités accessoires, voilà. C'est ça, oui. Voilà, les activités accessoires, ben, nous y voilà. Donc, auparavant, les activités accessoires étaient accessibles seulement aux artistes-auteurs qui cotisaient sur plus de 900 heures SMIC par an. Elles étaient obligatoirement inférieures à 50% du chiffre d'affaires. Et elles étaient aussi plafonnées, je ne sais plus le chiffre de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait un peu la double peine, c'est-à-dire qu'à la fois, il fallait que ça fasse moins de 50%, mais il fallait que ça fasse de toute façon moins de temps, une somme déterminée. Donc là, on a réussi à élargir pas mal les choses aussi, à force de travailler les ministères au corps. Ça a été de longues années de négociations, parce que ça a pris quand même de 2011 à 2020, hein, pour arriver à ouvrir un peu plus la porte. Et faire rentrer aussi des activités comme par exemple quand on est un artiste qui va être assistant d'un autre artiste sur une exposition, il peut le facturer en activité accessoire. Ça, je dois dire que je ne sais pas si c'est une bonne chose, parce que normalement ça devrait être de l'activité salariée. Mais c'est vrai qu'on a vu, moi j'ai vu des dossiers quand même où il y avait des gens qui faisait de la mise en place d'expos à Beaubourg, et on en s'est retrouvé avec les factures à la maison des artistes, ce qui est quand même un peu curieux. Donc là, leur montant est limité à 1200 SMIC horaire, donc 13 524 euros en 2023. Et si vous siégez dans des commissions où vous êtes indemnisé par les pouvoirs publics ou par une institution, quelle qu'elle soit, vous pouvez intégrer ces revenus-là aussi dans vos revenus accessoires. Et là, cette fois, sans limite à 1200 SMIC, mais enfin, d'ici qu'on touche plus que 13 000, je ne sais pas quoi, euros, en siégeant dans les commissions, faut se lever de bonne heure. Donc, le revenu artistique est composé donc de ces, soit de uniquement votre le revenu strict de votre activité à titre principal, soit de votre activité à titre principal et votre activité à titre accessoire. Donc c'est l'addition des deux qui va former l'ensemble de votre revenu artistique, lequel va être majoré de 15% pour calculer l'assiette sociale de vos cotisations. Alors cette histoire des 15%, c'est une espèce d'entourloupe, parce que comme on a les taux de cotisation des salariés, mais que les salariés, eux, ils ont un salaire avec, enfin, je veux dire, ils ont leur salaire est amputé des cotisations sociales. Enfin, la somme qu'ils touchent, les cotisations sociales sont prélevées avant. Donc, nous avons pris un montant approximatif de cotisations sociales qu'ils ont rajouté à notre revenu pour nous le réenlever après. C'est très pratique et bon, on aurait pu s'en passer parce que ça majore quand même de 15% le revenu que notre revenu réel. Donc, si on est en bénéfices non commerciaux, les cotisations sont calculées sur ce bénéfice majoré de 15%, mais le bénéfice, pas le chiffre d'affaires. Alors que si on est en traitement et salaire, comme beaucoup de gens, donc toujours du côté ex-AGSA, enfin les écrivains, etc., les gens qui sont payés principalement en droit d'auteur sont souvent déclarés en traitement et salaire, c'est une grave erreur. Parce que là, leurs cotisations sont calculées sur la totalité des sommes perçues. Donc, y compris les cotisations. Enfin, je veux dire que quand on calcule son bénéfice, on va enlever ses prêts professionnels, ses cotisations sociales, tout ça, pour arriver à une somme à partir de laquelle vont être calculées les cotisations. Alors que si on est en droit d'auteur, en traitement et salaire, on va avoir ses cotisations à payer sur 100% de la somme perçue. Donc, c'est pas vraiment... Enfin, sous couvert de simplification, le législateur, dans sa grande bonté, veut toujours nous simplifier la vie. Et pour nous simplifier la vie, eh ben, il nous pique du fric, je vais vous dire. Voilà. Parce que, bon, c'est vrai que c'est plus compliqué, il faut faire des calculs, puis BNC plus 15, puis nanana. Alors que sinon, on s'occupe de rien, comme à la GSA, ils se sont tellement occupés de rien que tout un tas d'artistes-auteurs sont arrivés à l'âge de la retraite et se sont aperçus en arrivant à l'âge de la retraite qu'ils n'avaient jamais cotisé pour la vieillesse parce que la GSA ne faisait pas son travail. Donc, quelquefois, ça vaut la peine de faire un petit effort pour tenir sa comptabilité. Alors justement, la surcotisation. Très souvent, les artistes-auteurs ont un revenu, un bénéfice majoré de 15%, qui même majoré de 15% reste encore inférieur aux 600 heures SMIC. 600 heures SMIC, cette année, ça représente 6500 balles, quoi, grosso modo. Hein. On va dire ça comme ça. Oui, cette année, c'est 6700 et quelques. L'année dernière, c'était 6342 euros. Quelquefois, on n'arrive pas à avoir un bénéfice, même majoré de 15%, de 6342 euros quand on arrive à la fin de l'année. Donc là, mettons, on a le choix de pouvoir surcotiser pour avoir droit de valider 4 trimestres d'assurance vieillesse et d'avoir droit aux indemnités journalières si on tombe malade. Ou si on a un accident, parce que le problème, c'est que les accidents du travail, on n'y a pas droit. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a le choix de cotiser sur de l'argent qu'on n'a pas gagné. Non, je ne vais pas faire un truc comme ça. Ce n'est pas sérieux. Eh bien, si, parce qu'on peut le faire et on peut faire prendre en charge les cotisations en question par le régime. Ça, c'est quand même un petit cadeau de notre régime, c'est la Commission d'action sociale. Alors, la Commission d'action sociale sera composée de membres du conseil d'administration, qui sont nommés à ce qualité, bon, supplément et tout, et donc elle examine les dossiers des gens qui donc ont un BNC inférieur un BNC ou un revenu artistique, si c'est des droits d'auteur en traitement et salaire inférieurs aux 600 SMIC, et qui font la demande de prise en charge de leur cotisation. Donc c'est sous condition de ressources. Donc moi, ça m'est arrivé effectivement de voir des dossiers où la personne artiste avait gagné très peu, mais où son mari avait 50 000 balles de revenus annuels. Ben, on ne lui accordait pas le droit, même si on est d'accord pour séparer les droits du conjoint, il y a quand même un petit peu des limites. Mais en général, c'est plutôt les gens qui ont vraiment pas un rond qu'ils demandent, et en général, les dossiers passent. Ça fonctionnait très bien, donc jusqu'en 2014. Après, il n'y a plus de conseil d'administration, donc plus de commission d'action sociale. Donc c'était l'administrateur délégué nommé par le ministère qui faisait office d'eux et qui, ma foi, quand on faisait la demande, ça prenait un peu plus de temps, c'était un peu plus... On pouvait attendre un an et demi, c'était un peu bizarre. Mais ça fonctionnait. On est passé quand même jusqu'en 2017, environ un millier de demandes par an, à 10 demandes en 2017 ou en 2018. Enfin, là, ça, c'est vraiment... La machine s'est vraiment grippée. Et on a un peu... Ça s'est effondré, il n'y avait plus de demande. Donc voilà, les artistes ne sont pas assez au courant de ce droit, ni de la façon dont ça fonctionne. Parce qu'effectivement, il y a des barèmes. Donc si on gagne en dessous d'un certain seuil de revenus, que je n'ai pas en tête, mais Pierre pourra peut-être le compléter, c'est automatique, on remplit les critères. Si on n'a pas d'autres revenus par ailleurs, on remplit les critères et l'aide est accordée. Cette aide, on y a droit pendant 3 ans consécutifs. On n'y a pas droit la 4e année. Mais sur 3 ans, on peut peut-être arriver à provisionner quelques centaines d'euros pour la 4e année. Parce que moi qui arrive à l'âge de la retraite, mes chers amis, je peux vous le dire, avoir validé mes 4 trimestres tous les ans, j'en suis fort aise. Parce que quand même, ça permet d'avoir un revenu continu, comme il va être question dans le débat suivant. Enfin, la continuité des revenus. Voilà. Et donc, j'ai fait une petite simulation sur l'intérêt à surcotiser. Donc, imaginez, par exemple, que j'ai eu 3 000 euros d'assiette sociale, donc 3 000 euros de BNC majoré de 15%. Si je ne surcotise pas, je vais avoir pour l'année 486 euros de cotisation à payer. De toute façon, je les dois. Tout revenu dans notre pays sert à financer la sécurité sociale. C'est notre devoir et notre joie aussi, parce que sécurité sociale, je pense qu'on y tient tous. Et donc là, on va avoir 486 euros à payer. Mais pour ces 486 euros, je vais être obligée de tout sortir de ma poche. Je ne vais ne valider que 2 trimestres de retraite. Et si jamais je me casse une jambe, je n'ai pas droit aux indemnités journalières. Alors que si je surcotise, donc je vais avoir la CSG, la CRDS et la cotisation formation professionnelle qui vont être calculées sur mon bénéfice majoré de 15%, donc 315 euros, et la cotisation vieillesse qui va être calculée donc sur les 600 SMIC, qui étaient donc en 2022 de 6342, 390 euros. Mais je vais demander l'aide de la commission d'action sociale qui va prendre en charge mes 390 euros. Donc je n'aurai que les 315 euros à payer, ça je les dois de toute façon. Je vais valider 4 trimestres, et si je me casse une jambe, j'aurai droit aux indemnités journalières, qui ne sont pas bien lourdes certes, mais enfin quand même, c'est mieux que pas du tout. Voilà, donc d'où l'intérêt à surcotiser, l'intérêt à relancer l'activité de la commission d'action sociale, parce que j'ai l'impression que depuis cette réforme de 2019, le passage à l'URSSAF du Limousin, et ces histoires de modulation de cotisation, et qu'il n'y a plus la distinction affilié-assujetti, maintenant tout le monde est affilié, et c'est tant mieux, mais que du coup, j'ai l'impression que tous les nouveaux entrants, l'intérêt de mettre en marche cette surcotisation, elle ne leur apparaît pas spontanément. Donc j'ai l'impression que... Enfin, c'est une impression, je ne sais pas, je n'ai pas de statistiques là-dessus, parce qu'il y a énormément quand même de... Là, il y a 350 000 artistes-auteurs, ça a beaucoup, beaucoup augmenté, je veux dire, en... 2017, c'était 270 000. Enfin bon, on a rentré 100 000 personnes de plus en 5 ans. Donc, parmi tous ces nouveaux entrants, je suis sûre qu'il y en a un certain nombre qui n'ont jamais entendu parler de ce truc-là. Voilà. Donc, mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Veux-tu arrêter ? Oh. Alors, on va finir par un petit truc joyeux, la radiation. Donc, c'est pas dramatique. Hein. Si vraiment, bon, d'une part, si effectivement, à la suite d'un contrôle, on s'aperçoit que les petits Mickey que vous faites, vous les tirez à 10 000 exemplaires ou je sais pas quoi, ou alors que vous faites complètement autre chose, enfin que votre activité ne relève pas du champ, auquel cas ou dehors, vous pouvez représenter un dossier l'année suivante. Hein. Parce que c'est pas parce qu'une année vous avez fait autre chose que vous pouvez pas quand même rester dans le régime. Puis il y a des recours, vous pouvez aussi exercer un recours si vous n'êtes pas d'accord. Si vous estimez qu'effectivement ce que vous avez fait, si c'est bien des œuvres originales, issues de mon esprit fécond, et par conséquent je veux re-rentrer par la fenêtre. Donc ça, Sinon, si vous n'avez eu aucune activité économique pendant 5 ans consécutifs, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là de bénéfices, on a le droit d'être déficitaire pendant 5 ans consécutifs, il n'y a aucun problème, à part financier, évidemment. Rien de rien. Si vous n'avez pas de traces d'activité professionnelle pendant plus de 5 ans, là, c'est pas la peine de faire travailler les gens de l'URSSAF sur du rien. Ouais. Et donc, la taxation d'office, ça c'est un autre truc. C'est si vous, quand vous avez votre dossier de URSSAF du Limousin à remplir, vous le remplissez. Parce que si vous ne le remplissez pas, vous êtes taxé d'office. Et si vous êtes taxé d'office 3 ans de suite, et ben vous êtes viré. Voilà. Et puis le dernier cas, c'est donc si vous déclarez avoir cessé votre activité. Donc ça, il faut faire la déclaration. Il faut prévenir l'URSSAF du Limousin. Il faut prévenir la sécurité sociale des artistes auteurs. Il faut prévenir les impôts. Il faut prévenir tout le monde. Sinon, ils vont continuer à vous réclamer de l'argent. Alors, les autres droits sociaux, la prime d'activité. Alors, je pense que c'est pareil, il y a peut-être un déficit de demande de prime d'activité chez les artistes auteurs. On y a droit dans les mêmes conditions que tout le monde. Si on a un revenu inférieur à, je crois que c'est toujours 1050 euros, on a droit normalement à la prime d'activité. Donc faites la demande si vous en avez besoin, à moins que vous soyez tous des artistes au-dessus du seuil, mais je ne sais pas. Le RSA, donc là je pense qu'il va en être question peut-être tout à l'heure, avec l'arrivée prochaine de France Travail. Et donc je sais qu'il y a des expérimentations dans certaines régions pour sortir un peu les artistes auteurs, peut-être pas du RSA, mais en tout cas du contrôle excessif du RSA, pour considérer que la somme qui est allouée aux artistes auteurs au titre du RSA pourrait l'être à un autre titre, de façon à ce qu'on leur foute la paix. Je ne sais pas trop où ça en est, je ne sais plus dans quelle région c'est, mais je sais qu'il y a des expérimentations de ce genre qui se font. La couverture santé solidaire, ça c'est important aussi. La couverture santé solidaire, c'est donc une mutuelle gratuite à laquelle on a droit sous condition de ressources. Si on gagne moins de... Donc ça doit être d'entre 7 et 8 000 cette année, quelque chose comme ça. On peut bénéficier de la couverture santé solidaire, c'est-à-dire une prise en charge totale des frais médicaux sans payer, sans bourse déliée. Donc c'est la mutuelle du pauvre, on va dire. Voilà. Et puis, alors après, c'est des droits à venir. Parce qu'une protection sociale complète, ça se compose de la maladie, la vieillesse et le chômage. Donc le droit à une allocation en cas de carence de revenus. Mais ça va être le sujet de la table ronde qui va débuter bientôt. Donc j'arrête là mon intervention.
Merci.